nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Ces messieurs de la Sacrée Congrégation des Rites, qu'on appelle maintenant la Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements, titre ronflant, ont conseillé le pape Paul VI, avec le bon sens qu'on sait, en estimant que la fête du Saint-Nom de Jésus faisait doublon avec celle de la circoncision, c'est-à-dire la fête de l'octave de Noël, qui est sans doute passée un peu inaperçue pour vous, puisque vous n'avez sans doute pas eu accès à la messe ce jour-là. Ils n'avaient pas le goût de la redondance, ces messieurs-là, parce que l'utilitarisme qui les marquait n'accordait ses faveurs qu'à ce qui était directement efficace. Deux fêtes qui parlent du nom de Jésus, ça fait quand même un peu trop. Alors, ils ont décidé de supprimer la fête du Saint-Nom de Jésus. Je suis assez virulent parce que je trouve ça extrêmement dommageable. Certes, cette messe est récente. Elle a été promulguée par Clément VII au début du XVIe siècle pour seulement l'ordre franciscain. Et elle a été élargie à toute la chrétienté en 1721 par le pape régnant d'alors, Innocent XIII. Elle est d'une facture, c'est vrai, qui, lorsqu'on s'y connaît un peu en latin, ce qui n'est pas mon cas, mais je lis les commentateurs, et lorsqu'on s'y connaît un peu en grégorien, ce qui est mon cas, et j'en atteste, au plan artistique donc, et au plan théologique, cette messe n'est pas du premier ordre, certes. Mais ne pas aimer la redondance, comme ce fut le cas pour ces maîtres en liturgie, c'est ne pas comprendre grand-chose, je crois, au mode de fonctionnement de l'être humain. Parce que l'être humain, voyez-vous, contrairement à ce qui se passe peut-être dans certains cerveaux et certains laboratoires, l'être humain, il est progressif. Il a besoin d'une répétition, bis repetita placet. Alors oui, il est bon qu'en une seule et même semaine, on répète deux fêtes pour honorer le Saint-Nom de Jésus. Se plaindre qu'il y ait deux fêtes qui honorent ce nom de Jésus, plutôt qu'une seule, me semble ne pas avoir beaucoup de sens. Ça reviendrait, si l'on veut, à supprimer la fête du Sacré-Cœur au motif qu'il y a celle du Vendredi Saint, ou la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, au motif qu'il y a déjà le Jeudi Saint. Avouons que ça n'a donc pas beaucoup de sens. Et surtout, s'il a semblé opportun à des docteurs aussi éminents que Saint Bernardin de Sienne, Saint Pierre d'Alcantara, Saint Ignace de Loyola, parce que c'est à eux qu'on doit l'érection de cette fête du Saint-Nom de Jésus, s'il a semblé opportun au magistère de sanctionner ce choix, je ne vois pas pourquoi, puisque l'époque ne s'est pas améliorée entre le 7e siècle et maintenant, pourquoi on éliminerait cette fête du Saint-Nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ériger cette fête du Saint-Nom de Jésus à l'époque? Parce qu'on était en pleine déification au début de cette modernité et puis au début du siècle des Lumières, lorsqu'on a étendu le culte du Saint-Nom de Jésus à toute l'Église, en 1721, on était en pleine effervescence des Lumières, eh bien on était en plein culte du progrès, de la raison, de la science, de l'homme, de toutes ces nouvelles idoles qui levaient la tête de terre. Et aujourd'hui, il me semble que nous avons affaire un peu aux mêmes divinités. Alors certes, elles se sont un peu recoiffées, elles se sont un petit peu repoudrées parce que la science, le progrès, la raison, on en est revenu suite à quelques déceptions, milieu XXe siècle, si vous voyez ce que je veux dire. On exaltait cela en Union soviétique et on exaltait cela dans le Reich hitlérien. Alors forcément, on en est un peu revenu. Mais on a aujourd'hui affaire à des filles un peu plus soft que leur mère, mais tout aussi nocives. Voyez, et si aux premières on a voulu opposer le nom très suave, très doux de Jésus, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il ne serait pas opportun d'opposer là encore à leur fille le nom très doux et très suave de Jésus. Parce que ces froides idoles n'ont guéri personne en réalité. Ces froides idoles ne peuvent pas combler le cœur de l'homme. Le seul nom qui puisse convenir à combler le cœur de l'homme, la seule personne qui puisse vraiment rendre heureux, c'est évidemment la personne de Jésus-Christ. Je sais bien qu'au XVIe siècle, parce que ce nom, au XIXe siècle, je veux dire plutôt, parce que ce nom de Jésus, parce que la toute-puissance, la vertu surnaturelle qu'on lui accordait dérangeait certains rationalistes, comme par exemple Loisy, dont vous avez dû entendre parler, alors on a pris la coutume de distinguer le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Vous voyez, Loisy a cru bon de distinguer ce Jésus qui n'était que le fils du charpentier de Nazareth, qui était certes un sage, une personne très intéressante, une sorte de Mahatma Gandhi, mais avant l'heure quand même, une sorte de Martin Luther King, mais avant l'heure quand même, une sorte... évidemment, j'en rajoute. Bref, on a fait de ce Jésus de l'histoire un modèle, mais un simple homme. Et on a voulu le distinguer de cette construction mythique, disait Loisy, qui s'est agrégée au fil des siècles autour de la personne historique de Jésus de Nazareth et qu'on a appelé le Christ. C'est bien dommage d'avoir fait ce divorce, et cette vieille rengaine sévit, il faut bien le remarquer, encore aujourd'hui. Dans des émissions comme celle de messieurs Mordillat et Prieur, peut-être avez-vous entendu parler de ça, Jésus sans Jésus, voilà, et toutes sortes d'émissions pseudo-scientifiques qui vous expliquent qu'en fait, bon, il faut bien considérer qui était Jésus, c'était un pauvre type, un peu illuminé, sympathique quand même, un révolutionnaire sans doute, mais enfin seulement un homme. Et qu'il faut bien distinguer des fables chrétiennes qui ont été élaborées par on sait qui, suivez mon regard, le magistère qui avait soif de pouvoir et qui était heureux de pouvoir asservir les foules à leur obscurantisme. Voilà. Alors il faut, malheureusement, je crois, à cause de ce divorce-là, il faut avoir le culot, il faut avoir la simplicité, le cœur d'enfant et le courage de martyr de dire à la face de ces gens-là, mais aussi à la face du monde, comme le fait saint Pierre dans son épître. Lorsqu'il s'adresse au Sanhédrin, il n'est pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus-Christ. Celui de Jésus. Ce Jésus qui était le fils du charpentier, putatif, le fils de la très sainte Vierge, et le fils éternel de Dieu. Né d'un miracle, mort et ressuscité dans un miracle plus éminent que les autres. Il faut, je crois, mes frères, ne pas hésiter à, dans une sphère publique où l'on ne veut plus entendre parler de Jésus, non seulement on ne veut plus que soient représentés les crucifix, mais même que ce nom très doux de Jésus soit prononcé, je crois qu'il y va du salut des âmes, c'est certain, bien sûr, je crois, il y va du salut des âmes de nos contemporains, mais c'est également du nôtre, de rappeler cette médiation nécessaire et unique de Jésus. Il est, je crois même, urgent de le faire parce que nos pauvres compatriotes et nos pauvres contemporains errent loin de Dieu, adorant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces sortes de muses que sont, je ne sais, les loisirs, la consommation, l'argent, le succès et la sexualité, par exemple. Il faut, parce que ces cœurs-là sont loin de Dieu et qu'ils sont, nous le voyons, exsangues, ces cœurs sont renfrognés, ces cœurs sont secs, étroits. Il faut que nous leur donnions le nom de Jésus pour que puisse s'opérer ce miracle d'une sorte de reviviscence de ces cœurs étroits de nos contemporains. Et en même temps que nous faisons cela, bien sûr, c'est notre propre cœur qui reprend vie. Parce que plus nous prononçons le nom de Jésus, plus nous pensons au nom de Jésus, plus nous l'affirmons ce nom de Jésus, et plus nous sommes remplis de Jésus. Et plus donc, partant, nous sommes heureux. Je crois que il faut bien regarder cet effet de la prédication, la première, toute première prédication de Saint-Pierre devant les craignants Dieu, c'est-à-dire ces personnes en train de se convertir au judaïsme qui, le jour de la Pentecôte juive, venaient en pèlerinage à Jérusalem et qui sont tombés cette année-là sur la première Pentecôte chrétienne. Saint-Pierre, tout empli qu'il était du Saint-Esprit, s'est dressé devant les foules et qu'a-t-il dit ? Quel discours a-t-il prononcé, sinon un discours entièrement relatif au nom de Jésus? Et quel a été l'effet de ce discours-là? D'entendre ce discours, nous dit le livre des Actes des Apôtres, ils eurent le cœur transpercé. Ces gens pour lesquels Jésus ne signifiait rien du tout. Le Christ, oui. Le Christ, c'était le Messie qui les attendait, eux, qui étaient en train de se convertir au judaïsme. Jésus, aucune importance. Peut-être avait-il entendu parler de ce Jésus, des foules qui étaient venues à lui pour se faire soigner. Peut-être certains l'avaient-ils rencontré. Il l'avait vu entrer triomphalement à Jérusalem, sans aucun doute, pour une bonne part d'entre eux. Puis ils avaient entendu la sentence qui était tombée contre Jésus. Peut-être l'avait-il suivi un peu de loin pour le voir finir au Golgotha. Et peut-être avait-il eu vent de cette pseudo-résurrection. Mais toujours est-il qu'ils étaient juifs. Ils étaient du moins en train de se convertir au judaïsme. De Jésus, ils ne retenaient que l'aspect humain. Et voilà que Saint-Pierre, empli de l'Esprit-Saint et ne craignant rien, se lève, leur parle de Jésus, leur explique qu'ils n'ont de salut que dans le baptême au nom de Jésus et que ces gens-là se convertissent d'un coup. Et ce jour-là, nous dit le texte sacré, ils furent, je ne sais plus si c'est 2000 ou 3000, à chaque fois j'hésite, à demander le baptême, à recevoir le baptême. Vous voyez donc que nous avons, par le nom de Jésus, une parole, un sésame, si j'ose dire, tout puissant. certaines des personnes que nous connaissons qui peuvent être agressives, qui peuvent être au moins sceptiques et tourner en dérision notre belle religion dans vos familles ou dans votre entourage, au nom de Jésus, qui sait si vous êtes docile au Saint-Esprit et si vous avez le cran de leur dire en face qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus pour être sauvé et qu'il faut recevoir le baptême, donc être configuré à Jésus dans le baptême, peut-être bien que le bon Dieu fera par votre bouche et par votre courage des merveilles. Nous le devons, et bien chers frères, nous le devons à nos contemporains. Ils n'ont malheureusement entendu parler de Jésus que via les émissions dont je vous parlais tout à l'heure, via cette espèce de vieille rengaine vulgarisatrice d'une idée totalement saugrenue que Jésus serait distinct du Christ. Il faut donc rétablir la vérité, et ce nom qui a d'abord été murmuré, songez-y, le privilège qui est le nôtre, il a été murmuré pendant 9 mois. Personne ne connaissait ce nom, sinon sa Sainte Mère, parce qu'il était en son sein, annoncé comme Jésus par l'ange le jour de l'Annonciation, et il était murmuré également par son Père, qui avait eu la visite de l'ange également, qui lui avait annoncé que son fils s'appellerait Jésus, du moins que le fils de son épouse s'appellerait Jésus. Ils n'étaient que 2 pendant 9 mois à pouvoir murmurer ce nom. Et soudain, ce nom a retenti par la bouche des anges, puis ensuite par celle des bergers, puis ensuite par celle des mages, rentrés de la crèche, émerveillés, comme nous verrons la semaine prochaine. Nous sommes les dépositaires de ce nom qui a fait un tel effet, qui a opéré une véritable révolution, et qui est une révolution bien sûr de paix, une révolution tout à fait bonne, tout à fait merveilleuse. Mes chers amis, en cette fête du Saint-Nom de Jésus, je crois que nous devons nous demander quelle est vraiment la place que nous accordons au nom de Jésus, quelle est la puissance que nous reconnaissons au nom de Jésus. Les évangéliques, eux, croient en la puissance du nom de Jésus. Ils ont bien des défauts, ils errent sur bien des points, mais je peux vous dire que lorsqu'ils prêchent dans la rue, ils annoncent le nom de Jésus avec un culot qui est digne des premiers temps. Où en sommes-nous nous-mêmes de cette annonce de Jésus-Christ ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.